On revient sur la pression faite par les Américains pour finir cette guerre et retrouver tous les otages détenus par le Hamas avec Daniel Haber au micro, bien sûr, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, samedi, quatre otages ont été libérés. Pourquoi les Américains poussent-ils ?
Alors, les Américains poussent à une négociation. C'est pas nouveau. Alors, ça fait plusieurs semaines. On en parle à chaque fois à conversation et je vous dis à chaque fois pourquoi cette négociation ne peut pas se faire. Tout simplement parce que ce que le Hamas a dans la tête et ce que Israël a dans la tête est tellement divergent qu'il n'y a pas de possibilité d'accord. Et à nouveau, les Américains mettent sur la table cet accord en trois points. Un cessez-le-feu temporaire, puis un cessez-le-feu immédiat, puis une reconstruction. Mais on voit bien que les divergences, elles restent essentielles, à savoir que le Hamas veut rester à Gaza et qu'Israël dit il n'en est même pas question. Donc vous voyez que la divergence est profonde. Donc votre question, au fond, conduit à essayer d'expliquer pourquoi les Américains font tant de pression sur Israël pour avoir une négociation en ce moment aussi vite que possible sur Gaza. Quel est leur degré d'urgence? Pourquoi cette urgence? On ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas ce qui s'est passé, parce que c'est assez similaire comme situation, en 2015. C'est le deuxième mandat d'Obama. Son premier mandat, la première chose qu'il fait en 2009, il va au Caire, il fait un grand discours pour saluer la grande civilisation de l'islam. Et 2 ans après, il dit, Moyen-Orient, ça m'intéresse plus. L'Europe, ça m'intéresse plus. Moi, je pivote vers mon ennemi principal, qui est la Chine. Et à son deuxième mandat, il met ça en exécution. Il lance une grande négociation sur l'accord sur le nucléaire iranien, qui sera signé hein, finalement le 14 juillet 2015, et qui est le pire accord qu'on puisse imaginer. C'est un véritable accord munichois qui laisse au fond l'Iran aller vers la bombe. Et on voit Bibi qui vend debout, essaye de faire changer d'opinion Obama, il n'y arrive pas, et il décide d'aller à Washington. Il ne va pas rendre visite à la Maison-Blanche, il va directement au Congrès, où là, il fait un discours extraordinaire que j'invite nos auditeurs à relire, parce que le 24 juillet de cette année, Bibi retourne devant le Congrès et retrouvera ses accents. Il dira peut-être des choses assez proches. Et il a droit à 21 acclamations debout. Un quart du Parti démocrate n'est pas là, boycotte la réunion. Et Biden, qui est vice-président, s'est trouvé un voyage, je crois que c'était au Guatemala, un voyage diplomatique, pour ne pas être là. Donc vous voyez que c'était une situation extrêmement tendue, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et finalement, malheureusement, l'accord va être signé, mais il est tellement mauvais que Trump va en sortir. Et que quand Biden revient, il dit « je veux y retourner », mais on n'y est toujours pas retourné parce qu'il est trop mauvais et on ne peut plus le signer. Alors en quoi ça nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est ça la question. Parce que les Américains, aujourd'hui, savent bien que le vrai problème, ce n'est pas le Hamas, c'est l'Iran. Et donc, les Américains veulent mettre fin aux opérations militaires de Gaza parce qu'ils ont peur d'une escalade militaire, parce qu'ils voient bien ce qui se passe au nord. Aujourd'hui, si on écoute, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, si on écoute les officiers de Tzal, ils sont prêts à aller attaquer à nouveau, non plus le Hamas, mais le Hezbollah. Et derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Or, que ce soit le Hezbollah ou l'Iran, les Américains ne peuvent pas laisser les Israéliens tout seuls, sont obligés d'intervenir. Or, ils ne le veulent pas. Ils ne voulaient pas intervenir en 2015 vis-à-vis de l'Iran, ils ne veulent toujours pas intervenir en 2024. Et donc, pour éviter une escalade, il faut cesser le feu tout de suite. Et donc, Bibi fait la même opération qu'il a tentée en 2015, c'est-à-dire qu'il va aller le 24 juillet tenter, et il espère avoir plus de succès cette fois-ci, tenter d'obtenir du Congrès qu'on cesse cette pression diplomatique qui n'a aucun sens.
Quelles sont les perspectives?
Alors, à court terme, si vous voulez, je pense que Bibi peut réussir à obtenir des délais. Moi, je fais le pari devant nos auditeurs aujourd'hui qu'avant le 24 juillet, il n'y aura pas de négociation sur les otages. Et qu'il y aura d'autres opérations comme celles qui ont permis de délivrer samedi 4 otages. Parce que le Hamas a très bien compris que Israël a compris, donc il essaye de gagner du temps, et donc ce temps, aussi bien le Hamas que Israël pense pouvoir le mettre à son profit, et donc il n'y aura pas de cessez-le-feu avant le 24 juillet. Ça, c'est les perspectives à court terme, hein, donc pas de négociation. Et à long terme, me direz-vous, alors à long terme, c'est beaucoup plus compliqué, parce que finalement, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, c'est pourquoi les Américains veulent-ils tordre le bras aux Israéliens pour les amener non pas seulement à faire un cessez-le-feu à Gaza, mais entamer tout de suite des négociations sur la question palestinienne, la solution à deux États. Parce que finalement, les Occidentaux, les Américains, les Européens, mais aussi les Chinois, estiment que le monde entier a intérêt à résoudre le problème de la question palestinienne. Et donc, pour ça, il faut tendre le bras à tous les participants. Il faut avoir des participants des deux côtés, côté palestinien, côté israélien, qui soient très affaiblis, pour qu'ils soient obligés de faire des compromis et obligés d'accepter ce qu'on leur imposera. Alors, le Hamas, évidemment, est très affaibli. L'autorité palestinienne a depuis longtemps plus d'autorité. Et donc, il faut affaiblir Israël. Pour l'instant, Israël reste fort parce qu'il mène des opérations avec beaucoup de détermination. Et vous voyez, la libération des otages, ça a donné un boost extraordinaire à l'esprit israélien et à Tsahal. Mais donc, il faut continuer à l'affaiblir et donc obliger Israël à un cessez-le-feu maintenant qui laisserait le Hamas à Gaza, parce que c'est ça dont il est vraiment question dans cette négociation, affaiblirait Israël, affaiblirait évidemment les Américains, mais les Américains s'en fichent, ils sont loin, ils sont puissants, etc. Ils sont prêts à livrer Israël à une plus grande vulnérabilité pour se tirer de tout ce qui est ces affaires du Moyen-Orient. Et donc, on arriverait, si jamais on obligeait Israël à un compromis sur un État palestinien à côté d'Israël, on construirait immédiatement un monstre. Ce serait un Gaza actuel puissance 10, parce que là, vous auriez tout un État palestinien qui serait en train de préparer un assaut contre Israël. Donc, c'est gravissime. C'est pour ça qu'Israël a raison de résister. C'est pour ça que Bibi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il représente tout le peuple israélien pour aller jusqu'au bout de la bagarre. Bien sûr, il y a la question des otages. Il faut les libérer si on peut par la force. Et de toute façon, on est bien sûr que si on entrait en négociation aujourd'hui avec le Hamas, il trouverait des moyens de ne pas les libérer ou de nous obliger à libérer des prisonniers qu'on n'est pas prêt à libérer parce que ce sont des prisonniers dont les mains sont pleines de sang. Donc on voit bien qu'Israël n'a pas d'autre choix aujourd'hui, comme d'habitude, Andrera, pas de choix que d'aller jusqu'au bout de sa bagarre. Et donc, ce qu'il est probable, et c'est ce qu'on entend de Tsahal, c'est que ça va encore durer assez longtemps, ces opérations à Gaza. Et c'est ce temps qu'il faut essayer de gagner.
Daniel, le fait qu'en novembre, les Américains votent pour Biden ou pour Trump, cela peut changer quelque chose?
Et oui, c'est exactement, vous avez tout à fait raison, c'est la bonne conclusion. En allant à Washington au mois de juillet, on rentre dans l'été, on garde encore quelques semaines, et de semaine en semaine, on va arriver au mois de novembre, et évidemment, l'espoir d'Israël, c'est que Trump soit élu, parce que ça changera évidemment la donne. Il n'y aura plus ce parti démocrate qui est un parti en grande partie wokiste, pro-palestinien, qui mène toutes les émeutes et toutes les opérations dans les universités, et donc qui est un danger mortel pour Israël. Donc, malheureusement, les démocrates ne sont plus les amis d'Israël, en tout cas une forte minorité, et donc il faut reconstruire quelque chose avec d'autres en attendant mieux.
On attend le fait que Donald Trump soit élu président et qu'il soutienne Israël coûte que coûte.
Oui, non, il n'y a pas de doute qu'avec Trump, ce ne sera pas comme ça. Il connaît les ressorts des nations. Il sait qu'avec l'ennemi qui est l'Iran, il faut montrer sa force, il faut montrer sa détermination. Et les Iraniens ont peur de Trump. D'ailleurs, tout le monde a peur de Trump, justement parce qu'il est en partie soi-disant imprévisible, fait, il est très prévisible, il cède pas facilement. Et donc, oui, je pense que, hélas, qu'on aime Bibi ou qu'on n'aime pas, qu'on aime Trump ou qu'on l'aime pas, le problème, c'est la survie d'Israël et sa meilleure position possible pour résister, non pas seulement au Hamas, mais à toute la menace iranienne et à tout ce qu'il y a autour. Je vous rappelle qu'il y a, il y a pas que le Hamas prêt à tirer sur Israël, il y a le Hezbollah et toutes les milices, et y compris en Cisjordanie. Donc le mal est profond.
Bien sûr. Merci, Daniel Albert, d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve la semaine prochaine.